compléter. Alors, le problème des métiers de la montagne et du tourisme de montagne, c'est que finalement, sur le plan économique, ce sont quand même des marchés qui sont à maturité. Ça veut dire qu'il n'y a pas des potentiels de croissance évidents et immédiats et durables ou pérennes. Donc, on voit qu'il y a une concurrence vraiment importante entre les destinations et pas uniquement entre les destinations de montagne. Le champ de concurrence pour attirer des touristes à la montagne, c'est un champ qui est évidemment beaucoup plus vaste que la montagne. Beaucoup de stations, par exemple, sont dans des problématiques de renouvellement de clientèle, assistent à un relatif vieillissement de leur clientèle, notamment de skieurs, et s'interrogent quand même sur la question de l'adaptation du produit à des demandes qui sont soit en évolution, soit on a changé de regard sur cette demande-là. Donc, ces évolutions, ça va impliquer des modifications dans les compétences, qu'elles soient au niveau individuel, et là, c'est réglé un petit peu par les questions de la formation, soit des compétences plus collectives ou au niveau de l'ensemble des organisations. L'idée derrière tout ça, c'est de faire passer des offres d'une orientation strictement technique et produit, hein, avec beaucoup de compétences au niveau de l'exploitation technique, au niveau sportif par exemple, compléter ces compétences-là à travers des choses plus orientées vers l'adaptation des produits. Ah, je me suis trompée de manette. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est deux exemples de recherches qui ont été menées sur les stations de montagne. Deux exemples pour essayer d'illustrer comment la compréhension de la demande va être vecteur d'innovation et d'évolution collective ou individuelle des compétences. Donc, j'ai un exemple autour de la montagne l'hiver, autour de la question de la qualité et de la satisfaction de la clientèle, puisque c'est censé être un facteur de croissance et de rentabilité. Le deuxième exemple, il est autour de l'adaptation des produits à la clientèle, notamment à la clientèle familiale, pour des produits de tourisme d'été. Alors, sur la question de la satisfaction, le postulat de départ, c'est de dire... pour avoir des clients satisfaits, il faut répondre à leurs attentes. Le souci, c'est que finalement, dans le domaine des services de tourisme, les attentes, elles s'expriment de façon extrêmement globale. Oh, je veux me détendre, je veux couper, je veux me vider la tête, des choses comme ça. Et parfois, c'est difficile pour les acteurs de mettre en face des choses concrètes pour dire mais qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour un hôtelier, pour un prestataire de service, pour une station, pour répondre de façon précise à ces attentes qui s'expriment de façon très émotionnelle, très personnelle, dans des référentiels vraiment de l'ordre du rêve, de l'émotion et des représentations symboliques. Alors, l'idée, c'est de s'intéresser finalement de mélanger des aspects très techniques de contrôle de la qualité, c'est-à-dire de regarder service par service qui va et ce qui ne va pas, et de le mélanger avec des évaluations de la satisfaction. On s'aperçoit que les clients, quand ils évaluent leur satisfaction, ils ont une vision très globale et ils vont remarquer tout ce qui dépasse. On appelle ça, techniquement en jargon, des satisfiers, des très bonnes surprises, des dissatisfiers, des très mauvaises surprises. Mais le reste, c'est vu de façon tout à fait globale. Le deuxième élément, c'est qu'en vacances, les touristes vont investir, par exemple, une semaine de leur temps, qui est extrêmement précieux, et ils n'ont pas envie de se tromper. Et sur place, ils vont avoir tendance à dire « je suis là pour me relaxer, je ne veux pas m'embêter avec les petits détails ». Donc ça va renforcer le caractère global de l'évaluation et ça va compliquer les mesures de la qualité et la gestion de la qualité. Ce qui fait que c'est important de reconcevoir les offres collectives, par exemple au niveau d'une station comme unité d'analyse, en disant pour un touriste, il y a une idée de coopération, on parle de coproduction, de co-construction, c'est-à-dire que la station va pourvoir des services, un cocktail de services de base, et va essayer de le mettre en scène et de le mettre en accessibilité de façon facile pour que des touristes construisent eux-mêmes leur satisfaction et la qualité de leur séjour, qui sera très centrée finalement sur des choses où la station intervient peu. C'est l'être ensemble, passer du temps de qualité avec ses proches. Et finalement, la station intervient peu. Elle intervient pour enlever les écueils et pour proposer des prestations dans lesquelles les touristes vont piocher, un petit peu comme à la cafétéria, des prestations. Alors, ce n'est pas toujours très plaisant ou très agréable à faire pour les prestataires de services qui aimeraient parfois des publics plus passionnés et qui se retrouvent face à des publics qui ne sont pas forcément très passionnés du sujet qu'ils viennent consommer, même dans une station de montagne, hélas. Donc ça signifie, en termes de compétences, de compléter les compétences techniques par des compétences autour de l'accueil, autour de la conception des produits, autour de la façon de créer de la satisfaction et de la qualité de la part des touristes qui viennent et qui permettent ce développement économique de la montagne auquel on est, je crois, tous attachés. Sinon, on aurait déjà changé de sujet de recherche ou de métier. Alors, le deuxième exemple autour de la consommation de la montagne estivale, là, nous avons réalisé une étude avec comme unité d'analyse la station, donc les personnes qui viennent séjourner en station l'été. Et à notre surprise, grande surprise, nous avons rencontré très, très peu de randonneurs. C'est-à-dire que l'essentiel des publics que nous avons rencontrés était dans une vision d'une certaine tranquillité active, se lever tard, je crois que vous l'avez dit, monsieur, marcher un peu, se balade, font un peu le tour. On a rencontré, bien entendu, des passionnés qui se lèvent à 6 heures ou à 5 heures pour randonner, mais finalement, on a rencontré des personnes qui étaient dans une activité quand même physiquement un peu plus tranquille. Et ces gens ont été confrontés à des difficultés pour accéder à la montagne. Ils ont finalement peu profité de la montagne, de notre point de vue, mais aussi du point de vue des acteurs de terrain qu'on a rencontrés. Et pour autant, ils n'en ont pas été frustrés. Ça veut dire qu'ils ont trouvé leur compte dans une consommation de la montagne très modérée, en faisant juste des petites balades, sans forcément s'imprégner de la faune, sans développer une compétence ou une sorte de culture montagne pendant leur séjour. Et c'est finalement assez dommage, peut-être pour eux, mais aussi surtout pour les offreurs. Le deuxième point qui a été soulevé dans les entretiens que nous avons menés avec une centaine de clients de montagne estivale, c'est la question de l'adaptation de ce produit à la famille. Parce que finalement, beaucoup de stations de ski disent « mais on est une destination familiale ». Mais finalement, c'est assez compliqué la montagne l'été avec des enfants, puisque les petits ne marchent pas. Jusqu'à 4-5 ans, c'est compliqué. Et quand ils sont à la limite bébé, ils peuvent être portés, mais il y a vraiment un âge difficile entre 4 et 7 ou 4 et 6 où il faut porter les enfants. Et les ados n'aiment pas marcher dans leur immense majorité. Donc, ça pose quand même des problèmes de l'adaptation de ce produit qui se destine traditionnellement à une clientèle familiale. On a rencontré des personnes qui disent qu'elles ont été très surpris agréablement de trouver des remontées mécaniques ouvertes. Ça leur a permis de randonner. Sinon, ils ne l'auraient pas fait, parce que la montée est impensable avec enfants. Alors, ça amène là aussi à se dire que sur un même site, à partir de mêmes composantes techniques ou sportives, il est possible et intéressant pour les stations de développer des offres multisegments et de re-réfléchir à la question de l'accessibilité. L'accessibilité, souvent on la vit pour un aspect peut-être de route et de logistique, mais aussi sur l'accessibilité aux personnes handicapées. Et en fait, on voit des stations, notamment italiennes et autrichiennes, qui vont développer des vraies politiques d'accessibilité en complément de leurs produits beaucoup plus traditionnels, avec des guides de haute montagne, etc., mais qui pour autant ne vont pas se fermer d'autres marchés qui vont faire de l'activité économique et pourquoi pas, qui vont aussi devenir peu à peu des passionnés de la montagne, éventuellement, même si ce n'est pas peut-être l'objectif premier. Donc réflexion sur l'accessibilité de cette montagne à des clientèles moins exigeantes et peut-être moins compétentes aussi. Et puis, amélioration de la lisibilité de l'offre. Finalement, les activités qui ont été pratiquées dans les stations de montagne en été ont été des activités qui n'étaient pas spécifiques à la montagne. C'est piscine, tir à l'arc, voire accrobranche, qui ont donné beaucoup de satisfaction aux clients là, mais qui ne sont pas des garantes de l'avantage concurrentiel de la montagne. C'est-à-dire que ces activités, elles pourraient être pratiquées ailleurs. Et il y a sans doute des espaces de mise à disposition de la montagne dans une version plus accessible pour que les activités praticables dans ce champ du loisir soient vraiment spécifiques à la montagne et nourrissent cet amour de la montagne que les offreurs ont envie de partager. Je vais d'aller un petit peu vite parce que je crois que c'est un petit peu la fin. Alors, ces deux petits exemples que je développe pas plus amènent à repenser la question de la formation et surtout des compétences à développer en se disant que des compétences techniques et sportives, elles sont évidemment indispensables dans le développement des offres, mais l'objectif n'est pas forcément pour les offreurs de proposer aux clientèles le produit qui leur correspond à eux, mais plutôt d'adapter leurs compétences à des clientèles qui peuvent être très diverses. Et de nombreuses stations, de nombreuses unités économiques de montagne pensent que c'est le chemin de la durabilité, dans le sens de la pérennité des activités, que d'être capable d'adapter ces compétences-là. Donc, ça peut vouloir dire, en termes de formation, par exemple, compléter des formations plus techniques par des modules autour du management de la clientèle, autour de la conception des produits, c'est-à-dire ne pas restreindre l'activité commerciale à la vente, même si c'est un champ très important, mais aussi en amont à la conception des produits. Par exemple, des stations que nous avons rencontrées nous ont dit, finalement, quelqu'un qui vient passer une semaine, il y a une balade de 2 heures qu'il peut faire. Une fois qu'elle est faite, mettons qu'elle soit faite le dimanche, c'est terminé, il n'y en a pas d'autre. Après, il faut reprendre sa voiture pour trouver ailleurs d'autres balades faciles. Et ça, c'est aussi des éléments qui peuvent être mis en œuvre, certainement pas au détriment de la montagne traditionnelle telle qu'elle est pratiquée en randonnée, mais pour garantir la pérennité de l'activité. Ça nécessite des compétences, mais ça nécessite aussi un regard différent sur la clientèle. Ce regard différent sur la clientèle, il ne tombe pas du ciel, il vient aussi avec des outils qu'on acquiert lors de formations et qui peuvent compléter des formations techniques. Soit des formations diplômantes, soit des formations par module, comme il s'en propose à l'université, mais dans les chambres de commerce ou dans les organismes consulaires de formation. Voilà. Merci.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc maintenant, nous pouvons passer à la phase questions. Je pense qu'il peut quand même y avoir...
Moi, je suis obligée de faire le micro, là, et après, je vous filerai un coup de main.
Oui, non, c'était...
C'est la traduction simultanée.
C'est la traduction simultanée, voilà. Donc, il y a un micro dans la salle, donc n'hésitez pas à lever le doigt et le demander. Voilà, première question.
Bonjour, merci pour vos interventions respectives. À titre personnel, j'ai beaucoup appris. Cela étant, j'aurais voulu avoir une précision. Aujourd'hui, je sens se dessiner deux mouvements forts qui sont d'un côté le tourisme, d'un côté le loisir. Et j'aurais voulu avoir un peu la vision de nos intervenants aujourd'hui sur cette segmentation. On a bien entendu cette notion de volonté d'aller se faire plaisir, mais pour autant, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, on pourrait très bien se faire plaisir dans un milieu urbain. Voilà. Donc j'aurais voulu avoir un peu votre vision sur cette dichotomie tourisme et loisirs. Merci.
Je te sens bien là-dessus, Philippe.
Bien. Alors, les travaux de recherche qu'on conduit sur la question nous amènent à au contraire de ce que vous dites, c'est pas par esprit de contradiction, hein, à justement relever le fait que on est de moins en moins capable de faire la distinction entre ce qui relève du tourisme, du séjour, et du loisir, donc qui serait fait à proximité ou qui serait fait dans une logique d'excursionnisme, c'est-à-dire sans séjour. On est dans une logique de dédifférenciation qui nous amène de plus en plus à parler de récréation pour désigner à la fois des pratiques qui relèvent traditionnellement du tourisme et puis d'autres qui sont plus du loisir. Pourquoi ? Parce qu'on sait de moins en moins différencier sur place qui est visiteur, qui est touriste, qui est excursionniste, qui est habitant. Il y a des touristes quasi permanents dans bon nombre d'entités touristiques, comme il y a des habitants temporaires. Et avec les phénomènes de métropolisation, c'est-à-dire de diffusion de modes de vie citadins en montagne, alors qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en attriste, hein, c'est une mutation qu'on constate, avec la métropolisation, les allers-retours sont de plus en plus fréquents entre la ville et la montagne, et on voit que la figure du touriste cède le pas à celle du récréatif, c'est-à-dire quelqu'un qui a parfois fait le choix de vivre durablement ou temporairement en montagne, dans ce qui était peut-être autrefois son lieu de vacances, et que, bah, de fait, on a des gens qui sont actifs et qui sont en même temps aussi visiteurs, mais touristes chez eux, d'une certaine façon. Donc voilà, il y a une sorte de dédifférenciation. Donc, de manière abrupte, hein, moi, j'aurais tendance à dire, les axes de recherche sur lesquels on travaille, nous amène à faire de moins en moins la différence parce qu'on constate que pour les opérateurs, pour les territoires, cette différence-là, très classique. Hein, dans le, ça fait partie des définitions de base qu'on apprend aux étudiants dans toutes les sections en tourisme. Le visiteur, lui, dort hors de son domicile. L'excursionniste dort chez lui. Je crois que dans bon nombre d'espaces, y compris sur les littoraux, hein, d'espaces touristiques, on observe cette espèce de transition là, qui agrège un petit peu tout. Alors, on a plus de peine à retrouver nos petits là-dedans, mais c'est le sens des mutations qu'on analyse pour nous.
Je ne sais pas si Dominique Kresiak aussi peut-être aurait des choses à dire dans ce domaine.
Moi, je partage tout à fait cette analyse. Et il y a aussi des effets de synergie, parce que justement, la personne qui est touriste en montagne l'hiver se plonge chaque jour dans une activité de loisir et qui va la mettre dans un état qui est qualifié d'état de flow, mais qui en clair dit qu'on plane quand on skie. Quand on skie bien, on est dans un état de déconnexion extrêmement agréable, extrêmement gratifiant, qui est le propre des activités de loisir et qui finalement va nourrir l'ensemble du séjour et va justifier un séjour touristique. Donc la distinction, elle est d'autant plus difficile à faire qu'il y a vraiment ces effets de synergie qui vont améliorer la satisfaction, la fidélisation touristique, par exemple.
Là-dedans.
Bonjour. Bravo pour vos interventions dans un premier temps. Je souhaiterais revenir sur votre intervention, Madame Kresiak, sur la question donc de la demande touristique et de l'évolution et des défis évidemment que les économies montagnardes vont devoir affronter dans un hiver extrêmement concurrentiel, qui se situe au niveau de la montagne mais face à la mer, face à la ville, qui se situe au niveau des localités. C'est Chamonix face à Gestat, c'est Briançon face à Aspen. On est vraiment dans cette dimension où, évidemment, il y a un positionnement du touriste qui va recevoir une offre et qui va se décider en fonction de cette offre et de ses propres aspirations. Et à ce niveau-là, on se rend compte que les premiers signes ne sont pas forcément très positifs sur l'évolution de cette demande, sachant que, alors je ne peux pas vous citer mes sources, mais j'ai entendu l'année dernière le directeur de l'office de tourisme de Serre Chevalier Vallée qui disait que la montagne avait reculé dans le classement, en tout cas des lieux touristiques derrière la mer, derrière la ville et derrière la campagne. Donc effectivement, là on pourrait revenir très longuement sur la montagne comme un espace de danger, sur le fait évidemment que ça demande des efforts, que ça n'intéresse pas les adolescents, c'est aussi des choses qui ont été dites. Mais au-delà de ça, je souhaitais juste revenir aussi sur la question de l'innovation face à la demande sociale et faire simplement partager une expérience sur Montgenèvre où l'offre touristique liée au VTT de descente a été développée justement parce que ça permet d'avoir d'une part une activité qui n'est pas une activité de force, et ça c'est extrêmement important aujourd'hui bien sûr pour faire venir un certain nombre de touristes, mais d'autre part c'est qu'il y a une vraie corrélation économique et avec une organisation de la société, enfin une organisation économique et sociale extrêmement intéressante dans la mesure où de faire du ski du VTT de descente, ça ressemble à du ski de descente dans le mode d'organisation avec un trépied, loueur, remontée et moniteur. Et ça va être les mêmes l'été et l'hiver. Les stations vont s'y retrouver. On va passer de CDD à un certain nombre de CDI. Donc oui, penser à développer une offre touristique, mais à le faire aussi de manière citoyenne, responsable et sociale, parce qu'il est là aussi l'enjeu pour les territoires de montagne, c'est que les gens qui y vivent aussi, bien sûr, à l'année, dans des conditions sociales intéressantes. Les deux autres exemples que je souhaiterais développer, c'est en réponse à Madame Pesselon, donc sur les formations pluriqualifiantes. Donc, deux exemples, donc toujours en région PACA. La première à l'Argentière, à l'ABC, au Centre Régional de Formation Canoë Kayak, qui ont développé une formation triqualifiante, qui est financé par le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, au-delà de la simple biqualification été-hiver, l'idée, c'est que les jeunes travaillent 10 mois. parce que les intersaisons peuvent être extrêmement compliquées dans ces territoires isolés. Donc un BNSSEA, donc pour être surveillant de baignade, un agent des parcs acrobatiques en hauteur, on en arrive au parc aventure, mais c'est aussi des niches d'emploi extrêmement intéressantes hein, sur ces territoires enclavés, et enfin un titre professionnel d'agent des remontées mécaniques. C'est ouvert uniquement aux jeunes sans aucune qualification. Donc là, oui, c'est une stratégie de dire, voilà comment on va, bien sûr, totalement gratuite et rémunérée, comment on va arriver à ce que des jeunes de ce territoire-là arrivent à avoir l'ensemble des qualifications nécessaires pour travailler toute l'année. Et enfin, un autre exemple sur une biqualification, donc sur un BPREA, responsable d'exploitation agricole, et un BES, donc d'équitation. Sur le sud du territoire des Hautes-Alpes, qui permet là aussi d'avoir une double qualification, mais sans passer forcément par le ski. Donc là aussi, il y a des stratégies intéressantes, et je reviendrai juste pour finir à cette question de stratégie de qualification qui situe sur des parcours de vie, des parcours où il peut y avoir des ruptures, où on va pouvoir travailler, et l'enjeu pour l'avenir, c'est de réellement s'appuyer sur les entreprises, les organismes paritaires collecteurs agréés qui collectent l'argent de la formation professionnelle, qui représente quand même 20 milliards d'euros pour toute la France, de s'appuyer là-dessus pour co-construire avec eux les collectivités, les associations, construire justement ces parcours de formation tout au long de la vie. Voilà, merci.
Bon, je ne sais pas s'il y a des réactions parmi vous là-dessus. Enfin, ce n'était pas vraiment une question, donc c'était une information, c'était très intéressant. Donc, voilà. Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'était un complément très intéressant. Donc, il y avait là-bas ce monsieur aussi.
Oui, bonjour. Si vous me permettez, j'ai quatre observations sur les quatre premières interventions, dont la vôtre, Madame Villamy. Vous avez dit que la rédaction d'Alpes avait hésité sur la montagne pour métier ou le tourisme pour métier. Vous avez... Vous aviez choisi la deuxième option. Est-ce qu'il crée un peu une ambiguïté ? Parce que, d'ailleurs, on a parlé de la montagne. Hein, on a parlé des métiers de la montagne. On n'a pas parlé du tourisme culturel. On n'a pas parlé du tourisme industriel, puisque ça existe aussi. Mais on a parlé que du tourisme de montagne. Et ce faisant, vous avez gommé cet aspect. C'est que la montagne, c'est un élément particulier. C'est un secteur particulier de la nature. Et qui dit nature, dit cycle de météo et saisonnalité. Et donc, ce faisant, ça a un petit peu biaisé le débat. Alors, vos autres interlocuteurs, du coup, étaient un petit peu, ont été induits par ce côté-là. Monsieur Bourdeau, dans son approche de la saisonnalité, n'a pas souligné l'importance des cycles de l'origine des cycles de la nature pour la pluriactivité. Alors, on parle de pluriactivité et on pense plurimétier. Mais au sein d'un même métier, on peut avoir une pluricité de tâches. Hein, mes grands-parents paysans n'avaient pas les mêmes tâches l'été et l'hiver. Hein, l'été, on faisait les foins et autres. Et l'hiver, eh bien, on s'occupait que du bétail, on réparait les outils. Lorsqu'on passe vraiment aux différents métiers, eh bien... Nous sommes en 2010, on a beaucoup fêté en Savoie le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Et à cette occasion, on a remis un peu sur le devant de la scène le film La Trace, le très beau film La Trace, qui est un très bel exemple de pluriactivité où le héros Joseph Extracias, eh bien, l'été, il est paysan à Tignes et l'hiver, il est colporteur un peu partout dans les Alpes. Autre pluriactivité, l'importation il y a au 19e siècle de l'horlogerie dans la vallée de l'Arve, hein, où les paysans de l'hiver faisaient des montres pour l'industrie genevoise. Pour Monsieur Gardien, il nous a parlé de la modification des clientèles. C'est vrai que les clients les aristocrates, souvent les grands bourgeois anglais du XVIIIe siècle, venaient pour faire leur grand tour, passaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans nos belles montagnes, et donc les relations étaient différentes. Maintenant, les agents de la cité ou tout simplement nos urbains des grandes villes, eux, ils viennent pour un temps très court et ils ne veulent pas d'altération de leur séjour à la montagne. D'où prise de risque, opposition, prise de risque. Et je pense que même des organismes comme l'ENSA, eh bien, à un moment donné, elle prend des risques alors qu'elle est dans une formation. Et je pense au dramatique accident qui a coûté la vie à Charles Boson et à un certain nombre de stagiaires de l'ENSA. Je ne pense pas que la règle des 3 jours de stabilisation du manteau de neige ait été respectée ce jour-là. Bon, dernière remarque pour monsieur Léon, c'est simplement un petit oubli de sa part dans les acteurs qui ont contribué largement à l'hébergement touristique en montagne. Vous avez oublié les compagnies ferroviaires qui ont été très importantes. Le PLM a construit un certain nombre de grands hôtels touristiques à Chamonix, à Combloux, à Megève et aussi sur la Côte d'Azur. Et au Canada, la Canadian Pacific a fait exactement les mêmes hôtels à Banff, à Lake Louise et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie.
Merci. Alors, comme j'étais interpellée la première, je voulais simplement dire qu'effectivement, c'était un petit peu, quand on parle des métiers de la montagne, c'est tellement large. Et bon, nous, c'est le numéro 50 et il y a déjà beaucoup de choses dont on a parlé. Vous parliez par exemple de Banff et on avait fait un article il y a déjà assez longtemps sur les guides suisses qui avaient été recrutés par Cook, par exemple, pour aller s'installer à Lake Louise ou dans les Rocheuses et qui ont justement inventé en quelque sorte l'alpinisme et transporter l'alpinisme dans ces régions-là, justement liées au train. Et les trains étaient aussi le sujet d'un relativement récent numéro où l'on parle évidemment le lien entre le tourisme et qui a apporté énormément aussi de l'article de Daniel le mentionne rapidement aussi dans la revue, qui a apporté énormément de possibilités aux gens, aux locaux, pour construire les trains, pour creuser les tunnels, pas seulement aux locaux, hein, parce qu'on sait bien que les tunnels, il y a eu beaucoup d'Italiens qui sont venus, enfin ils sont venus d'un peu partout, et maintenant d'ailleurs ça continue, pour conduire les machines, pour travailler dans ces hôtels, etc. Donc il y a eu tellement de choses qui ont été liées, nous on a 100 pages, et donc il y a bien évidemment des choses, pareil pour tout ce qui est alpage, tout ce qui est troupeau, toute cette partie rurale, c'est aussi des choses dont on a parlé, avec un numéro sur la vache, avec des numéros sur la transhumance. Donc évidemment, il y a des recroisements qui font qu'on est obligé de resserrer, bien sûr. Donc c'est voilà, je tenais quand même à vous dire que c'était et cette saisonnalité, bien évidemment, est constamment, je pense, mise en avant dans ces métiers divers et variés, quoi, parce que forcément, c'est lié au cycle de la nature. Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est encore on en parlera dans le prochain numéro, puisque notre prochain numéro est consacré à l'hiver. Donc, justement, à ces fameux 5 mois d'enfer en été de travail, vous parliez des foins, et les 7 mois d'hiver, 5 mois. Donc, et ça continue, même si les saisons ont été quand même relativement gommées maintenant, comme le risque, entre guillemets, bien évidemment. Il y a d'autres personnes qui veulent répondre ?
Oui. Alors moi, un petit peu en regard, justement, a fortiori, avec les propos qui viennent d'être tenus, je voulais vous remercier d'avoir abordé dans des registres aussi différents les métiers de la montagne. Je m'appelle Cécile Guicharel, je suis une pluriactive de base de montagne. Et en écoutant vos propos, du haut de mes 50 ans dans mes montagnes, mais de mes 30 ans de professionnel dans la montagne, je me dis que ça mérite à être creusé, ça mérite à être entendu. Vous nous faites faire des liens et nous poser des questions qui sont très intéressantes. Et je trouve que l'écart mesuré entre l'intervention de M. Bourdeau et puis de vous, madame, qui avez terminé l'intervention, moi, ça me porte à réflexion. Je voulais entre autres dire que, effectivement, il faut qu'on y vive dans nos montagnes. Effectivement, il faut qu'on forme nos enfants pour qu'ils aient des métiers dans la pluriactivité, dans des métiers qualifiants. effectivement, il faut qu'on puisse maintenir cette économie, qu'on puisse du coup répondre à la demande des gens qui viennent, qu'il faut trouver de nouveaux produits. Vous parliez entre autres d'offres multisegments, d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, d'adaptation de produits. Moi, quand j'entends tout ça, et puis quand je vois nos gosses qui reviennent dans nos montagnes, qui sont bac plus 4, bac plus 5, qui reviennent quand même vivre chez nous, quand je vois aussi que, un petit peu en regard de ce que disait monsieur, qui nous a parlé des guides et qui disait qu'aujourd'hui, le métier de guide, à force de... Comment vous avez cité ça? Je l'ai noté, parce que ça me parle beaucoup en tant que monitrice de ski. Qu'à force d'avoir des parcours aménagés, qu'on arrive à avoir des gestes répétés, qu'on se coupe un peu de notre créativité professionnelle. Moi, je suis monitrice de ski. La répétition devient quelque chose qui... Parce qu'il a tellement fallu répondre à la demande de la clientèle qu'aujourd'hui, je me demande si on n'est pas un peu en train de scier la branche sur laquelle on est assise dans nos métiers de monitrice de ski aussi. Du coup, la question, elle va plus loin en se disant, mais alors... À force de m'adapter, de faire des produits pour les gens, de m'adapter à la demande, à ma survie, qu'est-ce qui me reste comme marge de manœuvre de la trouver ma créativité? Et du coup, qu'est-ce que je perds, moi, de tout ça? De ma passion, de ma culture, de mon choix de vivre dans cette précarité-là ou dans cette forme de pluriactivité-là. Et du coup, le maire de la petite commune pour laquelle je paye mes impôts locaux, il dit souvent qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas perdre notre identité. Je pense qu'on va plus loin. Il ne faut pas qu'on perde notre âme à n'importe quel prix, au prix de faire... Donc, je trouve que les liens que vous faites tous, que ce soit des métiers pluriactifs, de l'expérience des guides, il y a l'histoire de la route du sel aussi, que j'ai trouvée très belle, que j'ai apprise. Moi, ça m'interpelle à me dire, est-ce qu'on se pose toujours les bonnes questions? Est-ce qu'on va réellement au fond? Aux besoins de qui? Aux demandes de qui doit-on répondre? Moi, je vais vous dire une chose. Je suis contente d'être souvent sur le fil du rasoir parce que je sais pourquoi je vis là-haut. Je le sais. Donc, de se poser les bonnes questions peut-être plus loin. En tout cas, je voulais vous remercier de la diversité des registres abordés qui nous permettent à nous, les gens de la montagne, aussi de faire des liens et puis de se dire... Oh, finalement, on s'en sort pas si mal.
Merci de cette très belle intervention qui dit beaucoup de choses ici.
Peut-être pour essayer de rebondir sur votre intervention, je crois qu'on a entendu des soucis sur l'avenir du tourisme en montagne, des questions qu'on se posait, comment répondre à la demande de la clientèle. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours travailler sur les programmes, les activités, l'accessibilité, aller au-devant des demandes, de suivre aussi les évolutions, les modes. Après, il y a une chose qui doit rester toujours présente, et je pense que vous l'avez un peu exprimé, c'est que c'est en montagne et c'est nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, qu'on propose des festivals de jazz ou des histoires avec Jean-Pierre Papin ou... ou qu'on organise un peu mieux l'accessibilité, comme ça peut se faire dans certaines petites routes des Dolomites, où il y a des services fabuleux de minibus 8 places qui font des rotations toute la journée pour des tarifs défiant toute concurrence. La première chose qu'on doit faire pour essayer d'avoir des clients en montagne, c'est de leur donner envie d'être en montagne. Je crois qu'on ne sait pas très bien en parler. Moi, quand j'entends des spots publicitaires qui sont censés faire envie à des touristes qui sont à Paris ou à Lille ou ailleurs, et que j'entends un gars yodeler « j'adore la montagne » comme s'il s'était coupé un doigt, je me dis « on nous fait passer pourquoi ? Quelle clientèle on veut valoriser à travers des messages pareils ?» C'est urgent qu'on travaille un petit peu sur une image intéressante, valorisante, gay, du milieu où on vit et où on veut avoir des clients, la montagne.
Il me semble que justement dans un contexte où l'effort est moins valorisé, moi je me souviens d'une fois où je m'étais retrouvée dans un groupe pour faire un trekking. Et quand on fait un trekking, notamment quand on est dans un pays comme le Maroc, c'est vrai qu'on préfère se lever tôt, surtout si c'est en plein mois d'août qu'on fait ce trekking. Et en fait, les personnes n'étaient pas venues forcément toutes pour se lever tôt et marcher au moment où finalement la chaleur était la moins forte. Donc là, c'est... je dis que souvent, finalement, à force de finalement s'adapter tout le temps à la demande, peut-être aussi il faut promouvoir un peu ce qu'est la montagne, comme dit monsieur gardien.
À trop s'adapter à la montagne, on passe à côté de notre cœur, de notre métier de cœur, de nos tripes, de nos choix de vie, de nous, de notre identité. C'est là où je trouve que quelle est la bonne limite dans nos choix de vie à nous, et puis quelle est la bonne limite dans ce qu'on propose à nos jeunes, dans ces segments, dans ces adaptations, dans ces machins. Qu'est-ce qu'on veut, quoi? Elle est où, la limite? Je n'ai pas la réponse.
Et ça me paraît d'autant plus pertinent que, effectivement, les activités qui sont proposées pour rendre plus facile ou plus agréable le séjour en montagne, notamment pour les familles, n'ont guère de spécificité montagne et du coup ne confèrent pas ne vont pas dans le sens de la découverte de la montagne. Hein, quand on fait, même si ça peut être très agréable, faire du trampoline en montagne, c'est peut-être très joli, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la montagne? Donc il y a sans doute des solutions plus innovantes, plus liées aux spécificités de la montagne et qui auraient des effets similaires. C'est-à-dire que l'adaptation, ça ne veut pas dire, loin de là, renoncer à son identité, parce que là, on arrive sur un produit banalisé où il n'y a plus que le prix qui fait la différence. Donc c'est vraiment l'inverse de la création de valeur par l'adaptation du produit. C'est vraiment une façon tellement mécaniste et à courte vue que de faire une adaptation qui banalise le produit. Et ce serait vraiment dommage parce que ça démotive aussi les offreurs et ça démotive et ça on perd totalement cette valeur liée intrinsèquement à la montagne.
Je voudrais... C'est moi, voilà, je suis là. Je voudrais réagir sur le tourisme pour métier. Vous avez parlé montagne, station de ski, j'ai tout entendu. Je suis d'une vallée qui s'appelle la Maurienne, où nous avons eu beaucoup d'industries. Le patrimoine industriel, nous avons un patrimoine fortifié conséquent, le fort du Télégraphe, tout le monde le connaît, par son col au moins. Nous avons un patrimoine religieux. Et cette transformation du patrimoine industriel en patrimoine touristique induit des métiers. Je suis sur le secteur du site minier des Urtières, où il y avait les paysans mineurs qui travaillaient dans les alpages l'été et à la mine l'hiver pour gagner de l'argent. C'était très dur, on ne va pas me dire. Et nous sommes à un secteur de montagne où la montagne, c'est la chaîne de la Belle Donne, est à 1400 mètres d'altitude. On n'a pas de station de ski. Donc ce patrimoine, il faut le valoriser l'été. C'est une accessibilité aux familles. Quand on dit personnes à mobilité réduite, c'est 30% des personnes de France, des habitants de la France. Une maman avec une poussette est une personne à mobilité réduite. Donc l'accessibilité à une église, à un patrimoine fortifié, à des lavoirs, il y a des sites comme ça. Donc ça ouvre des niches. Ça ouvre des niches où on va utiliser des badges peut-être pour guider les touristes qui sont hollandais, tchèques ou autres. Nous employons au site minier. Actuellement, nous avons une stagiaire tchèque sur le site minier. Nous avons eu des Allemands, des Russes, des Polonais qui viennent nous aider à adapter nos sites Internet. Ça ouvre des postes pour des stages sur le site minier des Urtières ou ailleurs dans la vallée. On a des patrimoines industriels sur Saint-Michel, sur Saint-Jean-de-Maurienne, où il faut le faire redécouvrir. L'accessibilité revient, là, on a un patrimoine de famille. Autre remarque, les stations de ski sur la Maurienne, c'est les Cibelles, point. Mais habitant en bas de la vallée, on n'a pas de station de ski. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur les stations, on se déplace, les familles peuvent fort bien s'installer quelque part dans le bas de la vallée et aller un jour dans une station, une autre dans l'autre, etc. Il existe des tas de formules de ski comme ça. Mais ça leur permet, quand il n'y a pas de ski, de faire une autre balade, de découvrir autre chose. Donc, pour moi, vu de mon côté, ça ouvre des postes, des manières de travail, des niches, des recherches que nous, à travers les associations ou à travers les communes, on peut offrir ou voir. et puis à chacun un peu de découvrir ce qu'il attend et en venant. Et je pense qu'il n'y a pas que la Maurienne qui est dans ce cas-là.
Effectivement, le patrimoine, c'est forcément, c'est aussi des tas d'ouvertures de biqualification avec des gens qui peuvent très bien être guides d'un côté patrimoine, etc., bien évidemment. Et de toute façon, je pense qu'aussi avec le réchauffement climatique et le problème de la neige, ça va peut-être, il va falloir forcément développer des choses encore plus pertinentes pour compenser... et qui soient de montagne, liées à la montagne, comme c'est le cas des églises baroques, enfin même s'il y en a ailleurs, des patrimoines et pas les trampolines, comme disait madame, qui n'ont strictement rien à faire. Voilà. D'autres questions? Ah, il y a un monsieur ici. Ici, le monsieur, juste quatrième rang.
Merci. Moi, je serai très bref. Je voulais savoir si quelqu'un pourrait nous éclairer justement sur la statistique, sur la baisse réelle de fréquentation de la montagne l'été. Voilà, je présume que ce monsieur doit pouvoir, de par ses études et ses recherches, nous éclairer.
Oui, même si la statistique, ce n'est pas forcément l'indicateur que j'utilise le plus, mais il se trouve que j'ai eu entre les mains il n'y a pas longtemps une étude faite en Tarentaise, qui chiffrait à moins 22% la baisse de fréquentation estivale depuis 5 ans. Et c'est le genre de données qu'on retrouve ici et là, que l'on voit à l'échelle de l'ensemble de la fréquentation de la destination France, hein, effectivement avec une baisse de fréquentation de la montagne estivale, mais qui est une baisse continue depuis les années 60, depuis qu'on fait des statistiques de fréquentation touristique en France, en gros les années 1961. On voit cette érosion très lente qui concerne pas seulement la France, qui concerne aussi tous les pays de l'arc alpin et la France, mais en Italie et en Autriche et en Suisse, c'est tout aussi saisissant. Mais ça revient aussi, bon, constater la baisse, c'est une chose, et il y a un sentiment de crise et parfois d'urgence, de remise en question profonde quand on discute avec les socioprofessionnels sur le terrain. Mais je crois que quand on fait ce constat, on est au milieu du guet, on a fait la moitié du chemin, parce qu'il faudrait aussi faire le bilan critique du modèle de développement touristique en montagne, et le faire pas seulement pour l'été, mais aussi pour l'hiver, parce que la façon dont la montagne en tant que destination est aujourd'hui regardée, elle est très largement impactée par les choix qui ont été faits. Donc on a l'impression aujourd'hui que d'une certaine manière, toutes les astuces, toutes les innovations qu'on peut trouver en matière soit de commercialisation, soit de production touristique, elles sont là pour replâtrer d'une certaine façon les dégâts. Mais on n'en parle pas de ces dégâts. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire financer le tourisme de montagne par l'immobilier ? J'ai le souvenir dans cette même salle, il y a 2-3 ans, lors d'une grande messe du tourisme de montagne, comme on en fait régulièrement, du PDG de Terre et Vacances, qui disait que pour mettre fin à la spéculation en montagne, il fallait libérer les droits à construire. Et que du coup, comme on construirait plus, on pourrait, ça contribuerait à tirer les prix vers le bas. On entend très souvent des perles comme ça, hein, et qui, en face de lui, il avait tout le top 100 là des stations de montagne. Il n'y a personne qui a bronché. C'est un sujet un peu peut-être. Il y a une forme de consensus sur le tourisme de montagne. Tout le monde était d'accord pour dire l'industrie s'en va, l'agriculture s'en va, le tourisme doit prendre la place. Hein. Moi, je suis de ceux qui disent que l'enjeu, il y a 20 ans, c'était de sortir du tout-ski. Et le snowboard, la raquette à neige ont permis d'évoluer dans ce sens-là. L'enjeu, il y a 10 ans, c'est de sortir du tout-neige. Alors ça, on n'y est pas encore, on n'a pas résolu cette question-là. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de sortir du tout-tourisme. Ça veut dire de repenser la montagne comme lieu de vie pour des gens, comme je vous disais tout à l'heure, au sein desquels on arrive de plus en plus difficilement à faire la différence entre ceux qui vivent, ceux qui visitent. Ils n'ont pas les mêmes besoins, il y a des problèmes de service, des problèmes d'accessibilité, de mobilité. Mais la montagne est sans doute le dernier endroit où, en France notamment, on mettra en place des solutions de mobilité soutenables. Voilà, l'immobilier, l'automobile, etc. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler les solutions problèmes. Hein. L'immobilier, c'est la source de financement. On a lâché les vannes en Maurienne. Monsieur parlait de la Maurienne. La Maurienne a doublé sa capacité d'accueil depuis 5 ans. Et on sait bien, on observe partout les mêmes phénomènes. La location des appartements concernés est bradée. Hein, c'est du low cost. Les gens viennent, mais ils ne savent pas bien pourquoi ils sont là. Donc, la première chose qu'ils font, c'est prendre leur voiture et faire 400 km par jour. Donc, est-ce que ce système-là est soutenable ? C'est un peu l'arrière-plan dont on ne parle pas. Par contre, on se tracasse les méninges pour savoir quel nouveau produit on va trouver. Quand la Maison de la France, qui est l'organisme de promotion nationale du tourisme à l'étranger, interroge les touristes finlandais, italiens, allemands, anglais sur l'image qu'ils ont de la destination France, ils disent en montagne, ils disent vos stations elles sont bien, mais elles sont trop urbanisées. Continuons à construire 20 000 lits par an dans les Alpes du Nord pour faire rentrer de l'argent dans le système. Après, je reviens à ce que disait Alain Boulogne, vous avez sûrement entendu dans cette salle pour un certain nombre d'entre vous. Hein. On croit qu'on vit du tourisme, non, on vit de l'immobilier. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le bilan critique, on est capable d'en faire des éléments, mais tirons-en quelque chose de ce bilan critique. Ne continuons pas à faire la même chose. Mais ce n'est pas scier la branche sur laquelle on est assis de faire cette réflexion-là. Hein, parce que les métiers, ils ont de beaux jours devant eux, à condition qu'on prenne acte de ces questions-là, il me semble. Auquel cas, après, c'est un débat. Voilà. C'est aussi un débat qui donne de la dimension politique au modèle de développement en montagne, alors qu'il y a eu très longtemps un consensus pour dire que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat.
Pour compléter ce que vous proposez et pour rebondir avec la distinction qui est de plus en plus floue entre tourisme et loisirs, on voit par exemple que l'accent très fort mis sur l'immobilier fait que le produit phare c'est le séjour et que du coup la niche, parce que c'est vraiment une niche finalement de clientèle de proximité pour les stations de ski, c'est quelque chose qui est totalement en friche. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de politique de fidélisation intéressante sur la clientèle de proximité, il n'y a pas d'effort collectif sur l'apprentissage du ski pour les clientèles alpines. Et il y a des proportions inquiétantes de jeunes chambériens ou annéciens ou grenoblois qui ne skient pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude et qu'ils n'ont pas atteint le niveau suffisant pour se régaler. Donc c'est une clientèle qui est perdue pour toujours. Donc dans les renouvellements de clientèle, il y a aussi ça. Et ce sont des gisements de rendement, peut-être aussi dans la durée. Alors, je ne suis pas assez calée pour dire quelle serait la durabilité de cette clientèle. Mais dans tous les cas, c'est un gisement de clientèle qui doit être exploité. Et on voit aussi que l'Autriche, par exemple, a profité de la crise financière pour réorienter sa communication touristique en disant « restez ». Restez, venez plus souvent ou venez moins pour des séjours courts, en mêlant vraiment ces notions de loisirs et de ce qui est. Et la mainmise de l'immobilier a orienté totalement les efforts sur le séjour où on reste une semaine.
Donc la question que vous posez là, c'est celle de l'accessibilité financière. On sait que les stations globalement, elles ont monté en gamme. Hein, c'était le leitmotiv depuis 10 ans. C'est-à-dire, en gros, les pauvres ne nous intéressent pas. Triez votre public, montez en gamme. Et c'est pour ça qu'on voit que, alors que le nombre de journées skieurs tend à régresser ou à stagner selon les endroits, les chiffres d'affaires augmentent. Donc on a choisi de faire une croissance en valeur et pas une croissance en nombre, d'une certaine manière. Hein. Ça, c'est le langage des économistes. Mais il peut y avoir des dispositifs d'aide, comme celui que vous évoquez, monsieur. Mais c'est vrai qu'il concerne les gens qui sont à proximité. Tout le monde n'en bénéficie pas, évidemment. Et je dirais que la clientèle des sports d'hiver, elle se réduit de plus en plus soit à une clientèle internationale qui, elle, a suivi la montée en gamme, hein, ce qui fait un peu tourner la tête des opérateurs parce qu'ils imaginent que voilà, Hein, tout va bien, on baigne dans l'opulence, parce qu'on a été chercher de plus en plus loin des gens qui avaient de l'argent. Soit une clientèle, au contraire, de proximité. Hein, et entre les deux, c'est un peu ça le problème des sports d'hiver, c'est que on a réduit, comme peau de chagrin, la population des skieurs. Et sachant qu'à la base, le tourisme social qui initiait, alimentait les stations, etc., il a été remplacé par cette espèce de mirage du low cost, hein, c'est-à-dire on va brader certaines choses, le transport aérien ou la location de ski, et on va démocratiser le ski de cette manière-là, mais on sait très bien que ça ne fonctionne pas. Hein, et que c'est, oui, il peut y avoir des schémas locaux, des opérations qui sont très bien fichues et qui permettent une meilleure accessibilité, mais globalement, c'est pas le cas du système global, il me semble.
Bon, je pense que nous allons clore le débat. Il est 12h30, on a dépassé un tout petit peu. Et puis, une dégustation. Alors, autre métier qui se pratique aussi en montagne, c'est la viticulture. Et donc, on connaît un certain nombre de bons producteurs, justement, pas très loin d'ici, dans la belle Combe de Savoie. Et donc, voilà, si de toute façon, vous pourrez aussi rencontrer et poser d'autres questions de façon plus informelle. Donc, voilà, vous êtes invités à aller là-bas. Merci en tout cas à tous de votre présence et à la prochaine fois. Et je voulais juste dire, il y a Anne-Marie Louvet qui est là, l'auteur des photos Double Face. Donc s'il y a des gens qui veulent lui poser des questions sur ce travail, n'hésitez pas, elle est là.